Geneviève,
Oui.
Jennifer,
Oui.
le 30 janvier, c'est aujourd'hui, là, mais
Ouais.
en 2002 est sorti le film Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre.
Déjà en 2002.
Oui, je ne sais pas si vous
Waouh.
vous rappelez, là, mais quand c'est sorti, là, c'était vraiment là,
L'euphorie. Oui.
exactement, tout le monde voulait y aller. Et je prédis que Alan Chabat, celui qui fait les Astérix et Obélix, va en faire un bientôt, c'est ce que j'ai entendu. En tout cas, on vous tient au
Ouh,
courant.
wow.
Kiosque Magazine.
Bon matin à tous, bienvenue dans votre émission Kiosque Magazine pour l'édition Culture et Loisirs. Je suis en compagnie de Geneviève Patterson et Charles Roy. Bonjour à
Bonjour.
vous deux, ça va bien?
Bonjour,
Oui,
oui.
ça va bien.
Alors Geneviève, de quoi est-ce que tu vas nous parler ce matin?
Aujourd'hui, je vous parle d'un événement rituel mensuel qui se déroule à New York le matin.
Okay.
Je vous parle également du nouveau spectacle de danse de Sylvain Aymard et également de l'humoriste Olivier Martineau.
Super. Et toi, Charles?
Je vais vous parler de Wu Han. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est une pianiste qui va être en spectacle à Québec. Aussi, je vais vous parler de deux spectacles de théâtre à Québec aussi. Les Fourberies de Scapin et Saint-Agapit 1920. Et également l'exposition Talking Heads.
D'accord. Et pour ma part, j'aborderai les nominations au Jutra où, une fois encore, un certain Xavier Dolan va faire parler de lui.
C'est qui, lui?
Oh, comme ça. En musique, je vous parlerai de Sarah Bourdon et de la sortie de son second album intitulé Mouvement. Puis en théâtre, la pièce de théâtre Épopée Nord qui se joue en ce moment au Théâtre du Futur. Et puis pour terminer, si vous souhaitez passer le mois de février sur des notes un petit peu sportives, la ville de Québec propose une activité qui s'appelle le pentathlon. Je vous en dirai un petit peu plus en détail dans la seconde partie de l'émission. Alors on commence tout de suite en musique avec une jeune demoiselle qui s'appelle Sarah Bourdon et qui nous prépare son second album. Jessica Edmond nous en parle dans le journal du métro de ce lundi 26 janvier. Après une longue tournée avec Yann Perrot, Sarah Bourdon s'apprête à reprendre le devant de la scène avec son deuxième album solo, Movement, sur lequel elle assume son amour pour la soul, la pop et son bonheur. La route a été longue et sinueuse pour Sarah Bourdon entre son premier album, justement intitulé La Longue Trail, et le moment où elle a finalement signé avec Audiogramme. Le moment magique s'est finalement produit à un spectacle des Sœurs Boulay au ZooFest, où elle jouait à titre d'artiste invitée et où se trouvait aussi Philemon Simon, d'où la présence des gens d'Audiogramme. Ils m'ont vu et se sont montrés intéressés à signer avec moi, se souvient l'artiste. À ce moment-là, j'avais déjà pas mal de tunes écrites et de maquettes enregistrées. Donc il y avait déjà un bon bout de chemin de fait. C'est que Sarah Bourdon ne correspond pas exactement au cliché de l'artiste désorganisé. Être artiste, c'est vraiment dur parce que ça prend énormément de motivation personnelle et de discipline, fait-elle remarquer. Pour Sarah, un changement de style entre son premier album plus country folk et Movement, qui penche davantage vers la pop teintée de soul, fait partie de cette démarche artistique, même si en fait le genre musical qu'elle adopte sur ce second opus se rapproche de ce qu'elle a toujours voulu faire. Le premier album est vraiment plus doux et j'avais envie de quelque chose de plus entraînant, qui célébrerait plus la vie. Et selon les dires de Sarah, c'est dans les rires que s'est bâti ce second album réalisé par Guillaume Chartrain, qui co-signe les arrangements avec elle, Gabriel Graton, François Richard et Marc-André Larocque. J'aime choisir les gens avec qui je travaille, c'est beaucoup une question de feeling, mais c'est rare que je n'aime pas quelqu'un. Et je suis une fille aga, admet-elle. On a enregistré live, donc tout le monde était là en même temps, tout se construisait sur place et on a beaucoup ri. Le résultat, des chansons d'amour, d'autres qui soulignent avec un sourire certains travers, la vie quoi. Je trouve important d'être honnête dans tout ce que je fais et je trouve que ce disque l'est. Des fois c'est beau et des fois ça ne l'est pas. C'est important d'assumer ce qu'on ressent quand on chante, quand on joue devant du monde. C'est ce que je fais de mieux, avec mon cœur et dans la joie.
tout un meilleur jour. Pour ne pas perdre la face, fais que tu restes en surface, ton intégrité sur la glace. T'es gâti, ça fait des envieux, que tes pions soient plus nombreux, comme si leur vie était en jeu, comme si leur vie était en jeu.
Une veste en jeans décontractée, un air faussement détaché, trop concentré à avoir l'air d'être bien au-dessus de tes affaires.
Et je vous parlais d'elle, donc juste avant, c'est Sarah Bourdon qui nous chantait Figure de style.
Oui, vraiment une belle découverte. Hein.
C'est génial à découvrir, ouais. Donc son album Movement. Je crois qu'on va rester en musique, mais alors là, c'est un petit peu particulier. Geneviève, raconte-nous.
Oui. On reste en musique, mais cette fois, je vous amène à New York, car il y a un phénomène tout nouveau qui s'appelle, en fait, c'est de raver au petit déjeuner.
C'est quoi ça, raver?
Qu'est-ce que c'est?
Oui. Alors, raver, oui, c'est de danser toute la nuit jusqu'aux petites heures du matin.
Okay.
Et c'est maintenant possible d'aller danser avant le boulot à New York. Mm. C'est un texte de Yves Schaffner dans la presse de ce mercredi dernier. Se lever à 5h30 du matin pour aller danser avant le boulot, c'est devenu un rituel mensuel, oui, pour les New-Yorkais adeptes de rave matinaux. De plus en plus populaire, le phénomène doit débarquer à Montréal en février. C'est pour ça que je tenais à lire ce texte-là. L'événement va arriver à Montréal le 5 février prochain.
Okay. Donc vendredi prochain, quand on se voit avant l'émission, on va arriver.
On va arriver.
D'accord.
Alors, mercredi matin, 6h45, il fait toujours nuit dehors quand nous entrons dans la Judson Memorial Church, une église convertie en immense salle de danse. On nous accueille avec un collier de fleurs en plastique et des « good morning » enthousiastes. Pendant que quelques personnes font du yoga au balcon, ils sont déjà plusieurs dizaines à se trimousser sur la piste de danse au son de « Beam Me Up », un morceau de disco house enjoué. Dans le lot, il y a un barbu avec une casquette à paillettes, une fille avec des oreilles de chat phosphorescentes, un autre avec une perruque afro, un gars en tutu. Pas de doute, je suis bel et bien dans un rave. Mais la différence avec les raves habituels, ici, personne n'est éméché. Si les gens se bousculent, c'est qu'ils ne sont pas encore bien réveillés. On n'y sert aucun alcool et la drogue est inexistante. Surtout, les gens ne viennent pas finir leur nuit ici, mais plutôt commencer leur journée. L'atmosphère est effectivement à la positivité, les sourires abondent. Il n'y a aucune attitude ici. Les gens ne se font pas prier pour bouger et danser, soutient Sticky Doja, le premier des deux DJ de la matinée. À Morning Gloryville, comme à l'événement concurrent Daybreaker, on peut danser, faire du yoga, voire se faire masser de 6h30 à 10h le matin. Le pic de la matinée, vers 8h. Dès 8h30, la piste de danse commence à se vider lentement, alors que les danseurs s'en vont les uns après les autres, au bureau ou à l'école. Parmi les danseurs, on retrouve en effet aussi bien des banquiers que des étudiants, des enseignants et des fans de yoga. L'événement se veut complètement inclusif. C'est ce que précise Annie Fabricant, qui fait partie de l'organisation de Morning Gloryville. La New-Yorkaise d'origine britannique a participé à son tout premier rave matinal à Londres, où le mouvement serait né en mai 2013. En plus de Londres et New York, plus d'une quinzaine d'autres villes, dont San Francisco, Tokyo, Barcelone et Berlin, organisent désormais des événements du même genre. Et comme je disais tout à l'heure, Montréal doit d'ailleurs accueillir son premier Morning Gloryville vendredi prochain. Mm-hmm. Et le slogan, eh bien, c'est le même que dans les autres villes, « Rave your way into the day », donc en traduction très libre de Yves Schaffner, « Commence ta journée en ravant ». Donc, pour plus d'informations, il y a la page Facebook « Morning Gloryville Montréal ». Ce sera le 5 février prochain et les billets varient au coût de 17 ou 27 $.
Oh! OK. Quand même.
Quand même.
Là, je vous amène totalement ailleurs. Je vous amène, en fait, toujours en musique, là, mais avec la musique classique. C'est le trio, ben là, je vais essayer de ne pas écorcher le nom, là, Finkel, Anne, Setzer. Bon, voilà. C'est, dans le fond, les trois musiciens qui font partie de ce trio-là. Ils seront en spectacle à Québec. C'est un article de Josiane Desloges du Soleil, publié le 28 janvier. Wuhan, la partition d'une femme artiste. Wuhan, c'est une pianiste originaire de Taïwan. Et elle revient tout juste de rentrer du Festival international de musique de chambre de Hong Kong. Alors, ça vous donne un peu une idée de l'envergure de cet artiste-là. Mm-hmm. Son mari, c'est le violoncelliste David Fickle. Et lui, dans le fond, il accompagne bien sûr sa douce dans ce trio-là. Les musiciens sont arrivés hier à Québec. Question de profiter brièvement de la capitale et d'un souper à la française. Passionnée de cuisine et de voyage, bien, ce qui est une bénédiction lorsqu'on est musicienne, bien sûr. Il va d'ailleurs d'une métaphore culinaire pour décrire les deux pièces qui seront au programme du concert. Ce sont comme d'incroyables plats allemands. Ce sont vraiment de la viande et des patates de notre répertoire. Ils sont riches et sans trop. Alors, ces deux œuvres, c'est le trio avec piano numéro 7 de Beethoven que la pianiste compare à une symphonie déguisée en trio. Et aussi le trio avec piano numéro 1 de Brahms, qui demande force et discipline de la part des interprètes, deux caractéristiques qui ont toujours guidé sa carrière. Rompu dès l'enfance à l'astreignante discipline d'une formation musicale professionnelle, Wuhan a développé une assurance et une aisance confortable avec les années. C'est un des avantages de vieillir lorsqu'on est musicien. La musique rend humble et finit par vraiment sortir de soi, indique-t-elle. La pianiste partage son amour et sa vision pour la musique lors des classes de maître qu'elle est régulièrement appelée à donner. À Québec, le public pourra assister à l'une d'entre elles au Conservatoire de musique vendredi, donc c'est tout de suite après l'émission, de 10h à midi, en simultané avec son conjoint. Vous voulez aller voir le spectacle? C'est le trio Finkel and Stelzer. C'est vendredi le 30 janvier à 20h et c'est à la salle Raoul Jobin du Palais Montcalm.
Xavier Dolan.
Xavier Dolan, tu sais pas c'est qui?
Ah, il fait des films?
Ouais, non, c'est ce que je me demandais en début d'émission.
On va donc en parler de Xavier Dolan parce que, bon, si vous avez pas entendu parler de lui, vous avez au moins entendu parler de son film Momie, je pense. En tout cas, la cérémonie des Jutras va arriver le mois prochain et Jessica Edmond-Ferra nous en parle dans le journal du Métro de ce mardi 27 janvier. Même si Momie a été omis par les Oscars, on se doutait que les Jutras ne l'oublieraient pas. Et comme de fait, le dernier film de Xavier Dolan est en tête des nominations, suivi de près par Tudor Nicole et par Tom à la ferme, un autre film de Xavier Dolan. Meilleur film, meilleur scénario, meilleure réalisation et des nominations dans trois catégories d'interprétation. C'est bien parti pour Xavier Dolan, dont deux des films, Momie et Tom à la ferme, sont cités dans les catégories de point en vue de la cérémonie des prix Jutras, qui célèbre le meilleur du cinéma d'ici. Momie sera par ailleurs récipiendaire du Jutra Billet d'Or, pour le plus grand nombre d'entrées en salle et l'un ou l'autre des deux longs métrages pourrait être couronné film s'étant le plus illustré à l'extérieur du Québec, tout comme Gérontophilia de Bruce Labrousse, The Grand Seduction de Don McKellar et Tudor Nicole de Stéphane Lafleur. Ce dernier est aussi en lice dans les catégories du meilleur film, de la meilleure réalisation et du meilleur scénario, en plus de valoir à ses comédiennes Juliane Côté et Catherine Saint-Laurent des nominations respectives comme actrices, aux côtés d'Anne Dorval, de Lise Roy, de Laurence Leboeuf et de Joëlle Paré-Beaulieu, et comme actrice de soutien aux côtés de Suzanne Clément, d'Evelyne Brochu, de Dalal Atta et de Sandrine Bisson. Celui qui joue le fils de cette dernière dans 1987, Jean-Carl Boucher, cité aux côtés d'Antoine-Olivier Pilon, de Walter Barden et Guy Nadon et de Patrice Robitaille, décroche ainsi l'une des 8 nominations décernées au film de Ricardo Troggi, aussi cité pour le meilleur scénario et le meilleur film. Cette dernière catégorie est complétée par 3 histoires d'Indiens de Robert Morin, aussi nommé par sa réalisation. Denis Villeneuve s'ajoute à Dolan, Lafleur et Morin dans cette catégorie. La 17e soirée des Jutras se tiendra le 15 mars prochain à 20h au Monument National.
Can I come along for the ride? There'll be many, many ups and downs, like the waves of the ocean. Return me to that sea again. Yeah. First you're born, then you die, then you smile as you cry. But the song is lovely, the melody is filled with fire. Listen closely, lift it high. But all things, see all things, yeah, all things, they must pass. I say all things, yeah, all things, they won't last, yeah. We can go 1,000 miles in the blink of an eye. When our loved ones leave us, we often cry, yeah. We don't know where we're going, but we know where we've been. With this love in our hearts, there can be no sin. Give it all to the sky, rest your mind. A frozen winter, will I change like summer far? But I know love's all in all. Yeah, seeds are always sowing, yeah, the grace is always blowing. We just got to lift the sail, and we're bound to hit the shore. Yeah, we'll finally calm the storm. Yeah. See all things, yeah, all things. Well, all things, they must pass. I say all things, yeah, all things. They won't last, yeah, yeah, yeah. We could go 1,000 miles in the blink of an eye, yeah, yeah. When our loved ones leave us, we often cry, oh yeah. We don't know where we're going, but we know where we've been. With this love in our hearts, there can be no sin. Give it all to the sky, rest your mind.
The World Keeps Turning, évidemment, de Trevor Hall. Geneviève, dans ton article Rêver au petit déjeuner, il y a une photo, puis j'aimerais en faire la description de Rêver au petit déjeuner. Écoutez, on voit, les visages sont tout petits, là, mais quoi, à peu près 100 de gens, les bras en l'air, toutes tout dansant. Puis motivé. On voit le DJ derrière, motivé. fait que, en tout cas, c'est assez exceptionnel. Là,
à essayer.
À essayer,
ben, à essayer une fois dans sa vie.
Oui. Mais il n'y a pas juste eux qui dansent. Mais... Hein. je pense, Geneviève, il y a aussi des gens qui sont sur la scène et qui dansent.
Tout à fait, il y a des danseurs. pour le nouveau spectacle de danse de Sylvain Aymard. Et il y a un article de Stéphanie Vallet dans la presse de mercredi dernier qui s'intitule « L'urgence de vivre » parce que la compagnie de Sylvain Aymard souffle cette année ses 25 bougies. Okay. Et pour l'occasion, le public de l'Agora de la danse va pouvoir applaudir le spectacle intitulé « Ce n'est pas la fin du monde » qui est la 30e et plus récente création de Sylvain Aymard qui lance justement un appel à la joie de vivre. À la joie de vivre. En fait, l'urgence de vivre, pas avoir de la joie dans l'urgence de vivre.
Oui. Ça peut être la joie de vivre
tout
aussi.
À fait. Donc, danser pour se sentir bien vivant, c'est l'exercice auquel les 7 interprètes de Ce n'est pas la fin du monde se sont prêtés sous la direction de Sylvain Aymard. Créée en 2013 à Bordeaux et à Montréal, cette pièce fait écho à la même notion qui habite les précédentes créations du chorégraphe, le sentiment d'urgence. Donc, célébrant l'urgence de vivre, Ce n'est pas la fin du monde propose de résister à la fatalité. C'est une pièce résolument optimiste qui invite à ne jamais baisser les bras. Donc, on peut dire que c'est la joie de vivre aussi.
Oui, tout à fait.
C'est important pour moi que la danse soit la vie. Je ne suis ni pessimiste ni jovialiste. J'ai surtout de l'espoir tout en restant lucide. Il faut faire face à la situation et se dire qu'on peut changer les choses. De là vient le titre qui laisse une certaine ouverture. L'art doit servir à aider les gens à poser un regard différent sur ce qui les entoure, sur le monde dans lequel on vit. J'espère participer à cette réflexion par la danse. Donc, Sylvain Aymard est un philosophe, une philosophie, en fait, propose une philosophie de vie qui met en mouvement une gestuelle dépouillée pour aller plus vite à l'essentiel, ce qui crée ainsi une danse sous tension, remplie de suspense. Au-dessus de leur tête, les 7 interprètes vont avoir une structure suspendue qui a été pensée par le scénographe Richard Lacroix, tel un nuage fait de boîtes de carton aussi rassurant que menaçant. Sylvain Aymard rappelle que les nuages peuvent nous garder à l'abri du soleil trop ardent, mais aussi être noirs et gorgés de pluie. Depuis maintenant 25 ans, Sylvain Aymard crée chaque pièce comme s'il s'agissait de la dernière. Chaque nouvelle pièce doit être la plus significative pour moi. Refléter où je suis et qui je suis en ce moment, comme s'il n'y en ait plus en avoir d'autres. Et après 25 ans, c'est encore plus vrai, tu ne sais jamais. Une chose est certaine, Sylvain Aymard est toujours aussi bouillonnant de créativité et planche déjà sur de nouveaux projets.
Les Fourberies de Scapin, ça, c'est une des dernières pièces que Molière a écrites et c'est présenté au Théâtre de l'Abordée jusqu'au 14 février. C'est Marie la Liberté dans le Devoir qui nous décrit un peu la pièce qu'elle a vue, Tourbillon de mensonges. C'est paru le 26 janvier. C'est toujours avec bonheur qu'on retrouve Molière et chaque fois, on reste ébahi devant son génie. Dans Les Fourberies de Scapin, pièce hautement réjouissante, le valet Scapin semble devenir lui-même homme de théâtre. Il imagine et met en scène des histoires et des personnages pour aider deux jeunes couples d'amoureux dont les liens carrément contrecarrent les projets des deux pères contrariés. De l'entreprise, Scapin tirera du même coup une vengeance personnelle. On retrouve dans cette pièce tardive de Molière, écrite 2 ans avant sa mort, les embrouilles, les jeux physiques et le comique de ses premières farces. S'y greffe l'ingéniosité de la construction, l'acuité du regard sur les personnages, la vivacité et la finesse de l'écriture, témoins de la maturité d'un auteur en pleine possession de son art. Plus de 20 ans après avoir incarné Scapin, Jacques Leblanc s'initie la mise en scène et sert Molière de toute son expérience. Direction d'acteurs impeccable, organisation rigoureuse de l'ensemble, il raffine ou grossit le trait ici, règle là les ressorts comiques et insuffle à l'ensemble un rythme galopant, une joie tonique et enlevante. Les comédiens, visiblement, s'amusent follement dans ce festival du mensonge et de quiproquo. Ce spectacle, Les Fourberies de Scapin, est présenté au Théâtre Labordé et c'est jusqu'au 14 février. C'est une mise en scène de Jacques Leblanc. En Montérégie, le parc national des îles de Boucherville offre des randonnées à la Belle Étoile, un sentier balisé de 4 km illuminé par des flambeaux et accessible en tout temps pour les marcheurs, autant pour les marcheurs que les adeptes de la raquette. La randonnée dure 1h15 environ et peut se faire entre 4h et 8h30. Il y aura des chocolats chauds, des guimauves et, attention, de la pizza chocolatée, rien de moins.
Pizza chocolatée, oui, ça
oui,
existe, ça?
Exactement, okay. Oui, c'est de la chocolaterie Hayes qui seront servies aux participants. Il y a possibilité de louer des raquettes sur place et de s'inscrire à une randonnée guidée par un garde-parc naturaliste. Cette randonnée nocturne est offerte le 31 janvier, le 14, le 28 février, ainsi que le 6 mars. Les réservations sont obligatoires. Je vous donne le numéro de téléphone en mille, le 1-800-665-6527 ou allez sur cpac.com.
Ils savent motiver les aventuriers et les sportifs. Hein?
Oui, c'est ça.
Bon, écoutez, on va s'en aller pour une courte pause et puis on se retrouve dans quelques instants. Voilà, à tout de suite.
Écoutez Kiosque Magazine.
Et nous voici de retour dans la seconde partie de l'émission où je vais vous emmener au théâtre, du futur plus exactement, où se joue en ce moment la pièce Épopée Nord et ce jusqu'à fin février. Marie-Hélène Chartrand nous en parle dans le journal du 24 heures de ce mercredi 28 janvier. C'est avec une immense affection pour le Québec et un brin d'ironie que le trio derrière Clotaire Rapaille, l'Opéra Rock et l'assassinat du président présente le troisième volet de sa trilogie du Québec, Épopée Nord. Une pièce mettant en relief le rapport trouble qu'entretient le Québécois pur laine avec les Premières Nations. On exacerbe les paradoxes de ce rapport dans lequel il y a beaucoup d'ignorance et de préjugés. En même temps, il y a une certaine culpabilité historique et c'est également quelque chose qu'on met en scène, explique l'auteur, metteur en scène et comédien Olivier Morin. Celui-ci, Guillaume Tremblay et Navé Confit projettent le spectateur dans un Québec imaginé de 2035. L'État est prospère grâce à l'hydroélectricité et ses stations balnéaires nordiques. Un jour, Fred Pellerin revient d'une tournée de 12 ans pour livrer un message de la part des Amérindiens « Soyez prêts !» Puis il saute en bas d'un pont. « Le Québec vit la guerre des multiplications », s'exclame Olivier. En effet, le taux de natalité des Amérindiens explose en réponse au traité de Valleyfield voulant que le territoire soit partagé au prorata des habitants. Les Premières Nations sont désavantagées parce qu'elles sont peu nombreuses et ils revendiquent une large portion du territoire. Ils sont pris pour se tasser dans des petites réserves minuscules, dit-il. Avec une bonne dose d'humour absurde, les membres du Théâtre du Futur comptent mettre en lumière ce sujet tabou, qui est celui de notre rapport aux Premières Nations. Pour exposer cette histoire rocambolesque, Olivier Morin s'est inspiré du folklore québécois et invite le public à s'asseoir en cercle. Les comédiens s'adresseront directement aux spectateurs, à la manière d'un conte. Pour ce qui est de l'ambiance sonore, des musiciens joueront en direct, sur scène. Bref, le Théâtre du Futur promet une soirée rocambolesque teintée d'humour qui, malgré tout, promet de faire réfléchir.
Got cause then she plays until dawn. Give me a little love and then she got to go home. When times are hard, when you start feeling low, let yourself
Et donc c'était Tom Petty avec The End and the Heartbreaker. Je crois que je l'ai bien prononcé.
Oui, oui.
Voilà. Alors on était en théâtre, je crois qu'on va partir en spectacle, humour avec Geneviève. De qui est-ce que tu vas nous parler?
On s'en va en humour avec Olivier Martineau et en cuisine. En fait, l'article s'intitule « Apprendre grâce au rond-poil ». Mmh. C'est paru hier dans la presse. C'est un texte de Steve Bergeron. Alors pourquoi les rond-poils? Lorsque Olivier Martineau s'est présenté aux auditions d'En route pour mon premier gala en 2010, il ne connaissait personne. Foutrement personne. Lui qui n'était pas passé par l'École nationale de l'humour se sentait un peu comme un vrai underdog, selon ses propres mots. C'est vrai qu'a priori, sa trousse d'expérience semblait petite. Un goût certain pour la scène, beaucoup de théâtre et d'improvisation au secondaire et au cégep, un bac en histoire de l'art, 2 ans à enseigner l'art dramatique aux adolescents. Bref, pas de quoi fouetter un chat. Sauf peut-être cette audacieuse aventure en 2007, n'avoir que 1 000 $ en poche et louer le Lion d'or pour y présenter un spectacle solo sans aucune expérience préalable. J'ai pris tout l'argent que j'avais. Après, j'ai vendu 300 billets de porte en porte. Mmh. Un peu comme Diggy Dong le film lorsqu'il vend des jokes à domicile.
Wow.
C'est un bon film, ça.
Oui.
Il m'a fallu 6 mois, j'ai cassé les pieds de tout le monde avec ça, mais ça m'a donné le goût. Comme quoi l'École nationale de l'humour est encore loin d'être incontournable. Et Olivier Martineau dit « Dans la vie, il y a 2 façons d'apprendre. Soit quelqu'un dit de ne pas toucher au rond de poil, soit tu y touches. Disons que j'y ai touché un peu trop souvent. De toute façon, le cœur de ma mère s'est arrêté le jour où je lui ai dit que j'allais faire un bac en histoire de l'art. Si je lui avais parlé de l'École de l'humour, c'est sûr que je n'aurais pas passé un beau Noël. J'aime mieux considérer que je suis à l'école tous les jours, encore aujourd'hui. » Il ne le dira évidemment pas, mais Olivier Martineau peut compter sur une bonne dose d'instinct et de talent. Les quelques extraits de ses prestations un peu partout sur la toile montrent un gars extrêmement à l'aise, qui improvise beaucoup, qui aborde toutes sortes de sujets et qui rebondit souvent sur les réactions de ses spectateurs. Et en passant, Olivier... Je tenais à te dire, si tu écoutes l'émission, que Nancy te salue.
Ah, qui est Nancy?
À suivre. Okay. Olivier travaille effectivement de manière très organique. C'est comme lorsque tu montes tes photos de vacances, tu ne les raconteras pas de la même manière à ta mère qu'à tes chums.
Ça, c'est sûr.
Ça peut avoir l'air facile, mais je suis plus méthodique que l'on croit. J'ai des procédés assez lourds, mais efficaces, qui me permettent de passer d'un truc à l'autre assez rapidement, comme une vraie conversation. J'ai justement ajouté 3 ou 4 nouvelles improvisations depuis le début du mois. Le Lavallois d'origine précise que le spectacle tient quand même davantage du dialogue que du monologue, même s'il s'agit essentiellement de stand-up comique. Olivier considère qu'il livre en ce moment ce qu'il peut faire de mieux. Il traite de sujets qui l'auraient effrayé il y a quelques années, de peur de déplaire ou de ne pas faire consensus. J'avance beaucoup plus d'opinions personnelles. Quelqu'un récemment dit de moi que l'insolence avait maintenant un nom. Je ne suis pas en désaccord, mais je parlerai plutôt d'irrévérence. C'est un spectacle inclusif, plus niaiseux que baveux. On rit de tout le monde, à commencer par moi. Si le spectacle avait eu un titre, ça aurait été « Jaillit tout le monde égal ». Je tire à boulet rouge sur tout, mais je suis le premier à se faire ramasser. Dans le fond, je gratte le vernis d'une société que je ne comprends pas tant que ça. Je retourne le miroir vers les humains. Regardez-vous, car ça ne va pas bien, et si ça grince un peu, ça ne coince jamais. Alors, autant l'humoriste ratisse ses sujets dans l'actualité et le monde contemporain, autant il s'inspire des anciens. Il dit que cette inspiration-là lui vient de son bac en histoire de l'art. Il se documente énormément. Il aime Pierre Labelle, Roméo Pérusse, Claude Blanchard, et il connaît tout d'Olivier Guimond. Je remonte jusqu'aux années 1920 et 1930. On pense qu'on invente, puis on découvre un sketch semblable qui a presque 100 ans. Alors, Olivier se rend spectacle aujourd'hui et demain à 20h30 au Vieux Clocher de Magog pour un coût de 30 $.
On retourne en théâtre maintenant, à Québec, au premier acte cette fois-ci. C'est le spectacle Saint d'Agapit 1920. Un texte de Gabriel Marcoux-Chabot dans Le Devoir, le 29 janvier, La mémoire à fleur de peau. Troublante incursion dans la mémoire vieillissante, Saint d'Agapit 1920 est une pièce d'une extrême sensibilité à laquelle on ne voudrait rien changer. On en sort profondément ému, avec au cœur la crainte de ne pas trouver les mots pour en parler. Des mots, il y en a d'ailleurs fort peu dans spectacle, où le geste, le son, la lumière et l'image tiennent lieu de signe. La proposition, toutefois, n'a rien de cérébral ou de désincarné. Si les voix, si les noms s'effacent, c'est pour laisser place à la prégnance de l'émotion et la vivacité du souvenir à l'intelligence du songe. À 91 ans, Jeanne d'Arc Normand se meurt à petit feu. Son corps usé ne répond plus aux demandes extérieures. Son esprit est loin, son cœur est ailleurs. À Saint-Agapit, en 1920. Mais ses souvenirs ont texture de rêve qui lui échappe peu à peu. Que reste-t-il d'une vie qui s'efface petit à petit? Des pommes partagées entre amis, des allumettes craquées dans le noir, la tempête, les hurlements des loups, la farine, sa douceur, un fusil, des pots maçons, un lapin dépecé, des assiettes, un mobilier ancien, lambeaux de mémoire arrachés à l'oubli. Mouvement des corps, action d'une simplicité naturelle ou artistiquement chorégraphiée. On surprend en soi des sensations inattendues provoquées par le jeu même des interprètes. Le corps parle au corps, le mouvement n'a pas besoin d'être analysé, il suffit de s'ouvrir à sa propre fragilité. Conclusion inévitable, il faut voir la pièce et il faut arriver tôt. Détail apparemment anodin, mais qui a son importance. En effet, la configuration de la scène ne permet pas aux spectateurs en retard d'y entrer. Saint-Agapit 1920, une mise en scène de Olivier Normand, à premier acte jusqu'au 7 février.
Arrivé à l'heure.
De février approchant maintenant à grands pas, je vais vous proposer un ultime défi hivernal.
Ok.
Ça va se passer à Québec. En effet, pour profiter à plein de l'hiver, un pentathlon qui se déroule sur la neige ou la glace pourrait être quelque chose de difficile à battre comme expérience de vie. Surtout que l'événement s'étale sur les 4 week-ends du mois qui nous semblent souvent le plus long.
C'est quoi déjà pentathlon? Il y a cinq... OK.
C'est des activités sportives, donc là, je vais rentrer un petit peu plus en détail. Oui, c'est justement Nathalie Lambert qui nous en parle dans le journal du 24 heures. Le pentathlon des neiges propose donc des rendez-vous sportifs à partir du 31 janvier jusqu'au 1er mars prochain pour les familles, mais aussi pour les sportifs amateurs et les athlètes de haut niveau. Cette année sera la 11e édition de ce que l'on considère comme l'un des plus grands événements de multisports d'hiver au monde. L'an dernier, l'événement a attiré un nombre record de plus de 5000 participants, âgés de 2 à 80 ans. Donc, comme quoi, c'est pour tout le monde. Et provenant de 10 pays, on attend autant de monde cette année. Alors, en bref, ces 4 fins de semaine sont des occasions uniques de profiter à plein des plaisirs de l'hiver. Plusieurs défis sont au programme durant lesquels les participants peuvent choisir de compétitionner de façon individuelle ou en équipe, de 2 à 5 personnes, et ce, dans 5 disciplines au programme. Donc, justement, il y a le vélo, la course à pied, le ski de fond, le patinage et la raquette. En plus des défis de pentathlon, il y a aussi quelques compétitions d'envergure auxquelles vous pourrez assister comme spectateur avec, entre autres, le championnat mondial de raquette. C'est samedi 31 janvier et le triathlon ITU Elite le dimanche 8 février. De 2008 à 2013, le groupe Pentathlon a fabriqué une patinoire naturelle conçue spécialement pour l'événement afin d'y présenter l'étape de patinage. Du fait de l'engouement pour l'événement et en raison du potentiel touristique du site, la ville de Québec a inauguré en décembre 2013 un anneau de glace réfrigéré de 400 mètres en remplacement de l'ancienne patinoire naturelle. Il est situé au cœur du site principal sur les plaines d'Abraham. Cette nouvelle infrastructure saisonnière est ouverte gratuitement au public jusqu'au mois de mars. Elle permet de patiner dehors sur une glace de très bonne qualité. Vous trouverez plus d'informations complètes sur le site de l'événement www.pentathlon-desneiges.com.
La lune et la neige, sommeil, toi vieilles étoiles, témoin des amours passés, de ceux qui sont restés seuls. L'hiver revient à grands pas, mais une autre musique, si c'est...
c'était La lune et la neige de Florence K. On reste dans le thème de la neige et des cinq, parce que tout à l'heure, Jennifer, tu nous parlais du pentathlon. Eh bien, vois-tu, il y a cinq nouveautés à venir au quartier des spectacles. C'est un article de Christopher Nardi dans le journal 24 heures de mercredi dernier. Mm-hmm. Je vais y aller en survol. Il y a une nouveauté, en fait, pour le stationnement intelligent, parce que le quartier des spectacles a beaucoup changé depuis le début de son réaménagement en 2007. Et bien qu'il reste toujours du travail à faire, et bien maintenant, il y a un peu plus d'endroits pour se stationner. Il y a également l'agrandissement du Musée d'art contemporain de Montréal. D'ici 2017, ce musée devrait avoir exécuté des travaux d'agrandissement de plus de 40 millions de dollars et qui se sont dans les plans depuis le début de la décennie. Il y a également de nouvelles expositions publiques afin de garder l'intérêt des Montréalais pour le quartier des spectacles à l'extérieur de la saison des festivals. Et puis, il y a plusieurs nouvelles expositions public semblable à celle en place présentement, dont la luminothérapie avec les espèces de prismes multicolores mm-hmm. qui jouent de la musique lorsqu'ils
tournent. Mais dépêchez-vous, hein, c'est bientôt fini, hein, cette exposition.
C'est bientôt terminé. Et puis, il y a aussi le réaménagement de l'îlot Clark et du carré Saint-Laurent. Auparavant, l'îlot Clark était un terrain vide situé à l'angle des rues Sainte-Catherine et Clark. Il va être bientôt réaménagé. C'est ce que promet le maire Coderre, bien qu'il n'a pas voulu s'aventurer dans les détails, mais il rappelle que la ville avait déjà réservé une enveloppe budgétaire pour le projet et qu'une annonce est imminente. Et puis, il y a l'arrivée de l'Office national du film, qui est établi depuis 1966 sur le boulevard Côte-de-Liesse. Eh bien, l'ONF va déménager d'ici l'année prochaine, donc d'ici 2016, ses bureaux ainsi que, ses studios au quartier des spectacles afin de se rapprocher du Centre culturel de Montréal. Et le nouveau siège social sera construit au coin de la rue de Bleury et du boulevard de Maisonneuve.
Février est le mois de l'hybridation avec des spectacles qui mélangent les disciplines, le vivant et les technologies de l'image et du son et du mouvement. Talking Heads de la compagnie de danse autrichienne Liquid Loft explore comment les médias sociaux affectent notre corps et nos relations avec les autres. Ce sont les mots de Josiane Desloges, dans Le Soleil. Talking Heads, danse et autres médias sociaux, paru le 25 janvier. Dans Talking Heads, le focus est mis sur deux interprètes, un homme et une femme, qui sont par moments filmés en direct par une simple webcam. L'image de leur visage déformé, souvent de manière grotesque, leur permet d'interpréter différents personnages, un couple d'amoureux, un artiste qui donne une entrevue à un journaliste, un chorégraphe qui donne son opinion à distance sur le travail des danseurs. Dans les années 90, on a beaucoup utilisé la caméra vidéo et les projections sur scène, et tout est soudainement devenu multimédia. Maintenant, on prend simplement des outils qu'on utilise tous les jours dans notre vie, qui est déjà multimédia, souligne M. Haring. On travaille avec aussi avec cette idée que le corps en mouvement est une sculpture qui sculpte l'espace et lorsqu'il part, il laisse une trace, tout comme les mots ont une résonance après avoir été prononcés, souligne le chorégraphe. Le spectacle sera présenté le 4, 5, 6 février à la salle Multi de Méduse. Le spectacle, c'est « Talking Head ». C'est maintenant la fin de l'émission, en tout cas à l'approche. Et je
le
vais
temps est bref.
Oui, exactement. Il aura fallu 9 employés la semaine dernière pour soulever le tableau « Le jour des funérailles » de Benjamin Constant, qui a été installé au Musée des beaux-arts de Montréal en prévision de l'exposition du peintre orientaliste qui prend l'affiche le 31 janvier. Plus tôt dans la semaine dernière, oui, c'est à l'aide d'une grue que le tableau de l'artiste qui a été peint au 19e siècle a fait son entrée au musée par la fenêtre. Donc, l'exposition, c'est ça, part du 31 janvier. Et je crois, Jennifer, que tu voulais ajouter quelque chose à ce propos-là au Musée des Beaux-Arts.
Oui, justement, au Musée des Beaux-Arts, eh bien, à la base, quand on va à une exposition, on n'a pas le droit de toucher aux œuvres, et sous peine de se faire expulser. Et là, pour les aveugles, maintenant, l'art est devenu accessible pour la première fois hier au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Daniel Fouquereau se confie en disant qu'elle en rêvait depuis longtemps. L'une des premières visiteuses semi-voyantes a pu tâter hier une sculpture du musée. Ça fait 10 ans que je guide ici et c'est la première fois que j'ai moi-même le privilège de toucher une œuvre, a souligné d'entrée de jeu la guide bénévole Guylaine Damour qui a dirigé cette première visite pour malvoyants. Daniel Fouquereau et Suzanne Deneau, toutes deux handicapées visuelles, ont enfilé des gants de coton afin de toucher les moindres recoins de ce bloc de granit, rappelant un char d'assaut. Donc tous les troisièmes mardis de chaque mois, il est possible pour les malvoyants de pouvoir toucher les œuvres. C'est au Musée des Beaux-Arts de Montréal.
Fantastique. Pour ceux qui aiment la pêche en Mauricie, ce week-end ainsi que le prochain, c'est la fête des eaux glacées de la rivière Sainte-Anne à Sainte-Anne-de-la-Pérade. C'est le dernier week-end, oui. L'Association des pourvoyeurs de pêche aux petits poissons des Chenaux propose plusieurs activités dans le cadre de son festival annuel. Des animateurs sont notamment sur place pour initier gratuitement les enfants à la pêche au poulamon, à la brimballe. Aussi, il y aura des dégustations de poissons, des spectacles musicaux, des clowns, de la glissade, des sentiers de patinage. Pour avoir plus de détails, c'est sur associationdespourvoyeurs.com. Je vous le rappelle, c'est ce week-end à Sainte-Anne-de-la-Pérade.
Le festival FRO 2015 entame les festivités du mois de l'histoire des Noirs du mois de février. L'événement rassemble des performances de toutes les disciplines qui mêlent la danse, le chant, l'art oratoire, la littérature et l'art visuel. Ce sont donc des artistes d'une relève animée qui seront là pour vous présenter des conférences, des numéros de hip-hop, de théâtre et de poésie. Soulignant l'art de l'histoire, FRO est un concept innovateur et actuel qui a su créer des liens entre les générations et les cultures. Ça débute demain soir à 20h à la Grande Bibliothèque de Montréal.
Toujours à la Grande Bibliothèque, hier, je suis allé voir Félix-Antoine Boutin explore l'œuvre de Gauvreau. C'est du théâtre, c'est une lecture publique. C'est dans le cadre de Théâtre à relire et c'était gratuit, c'était vraiment le fun. Donc, il y a plusieurs événements comme ça qui sont à venir. Notamment, le 26 février, Marie-Thérèse Fortin explore l'œuvre de Francine Loranger à la Grande Bibliothèque. Et toujours au même endroit, le 26 mars, Patrice Dubois explore l'œuvre de Jacques Languérand.
Le sixième album du populaire groupe Fall Out Boy American Booty, American Psycho, est en retour en force depuis la sortie de son dernier album Save Rock and Roll, produit en 2013. Le rock alternatif est toujours au rendez-vous, ainsi que les rythmes pom-punk qui donnent envie de faire la fête. Le band ne déroge pas vraiment de sa recette gagnante, soit des mélodies entraînantes et des refrains accrocheurs. Les sujets traités dans l'album ne sont pas politiques comme plusieurs critiques ont pu penser. Ils traitent plutôt de l'amour, de la consommation excessive et des générations.
Peut-être que ça va jouer au rave justement qu'il va y avoir à Montréal ou à New York.
Exactement. Alors on se donne rendez-vous vendredi prochain. Merci Charles, merci Geneviève, merci Rémi à la régie. Et à vendredi prochain, bon week-end à tous.